ratissent les environs.
On recherche même en dehors des sentiers classiques, là où les touristes ne vont pas d'habitude.
Les frères et sœurs de Tiffen participent aux fouilles. Ils distribuent des centaines d'avis de recherche, lancent des appels désespérés à la télé. Cinq mois plus tard, le mystère reste total.
Est-ce un accident ou un crime?
Damien et Sybille pointent les négligences de l'enquête. Ils en sont convaincus. Leur sœur a été enlevée. Et ils ne comprennent pas pourquoi la police n'explore pas cette voie. Leur combat désormais, savoir enfin ce qui est arrivé à Tiffen.
Bonjour à tous, c'est Lionel Camille, je suis auteur, spécialiste en disparitions mystérieuses depuis 2016. Je vais vous présenter la disparition de Tiffen Véron. Je viens de faire une grosse émission de 2 heures sur Nura TV. Pour préparer cette émission, j'ai passé de longues heures avec Damien Véron, le grand frère de Tiffen, que je remercie d'ailleurs pour sa confiance. Dans cette émission, je révèle des informations exclusives qui n'ont jamais été divulguées dans la presse jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce qu'elles proviennent directement de l'enquête menée par la famille auquel j'ai eu accès. Donc cette émission est donc exceptionnelle parce qu'en plus elle est suivie d'une interview de Damien et Sybille Véron, les frères et sœurs de Tiffen. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Mais vous n'avez peut-être pas le temps de voir ces émissions. C'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo résumé de l'affaire. On va donc commencer par les faits. Tout démarre en juillet 2018. Tiffen, c'est une jolie jeune femme de 36 ans, célibataire, ultra cultivée, elle adore le Japon. L'été 2018, son rêve devient réalité. Elle part pour un voyage de presque 3 semaines au Japon qu'elle a organisé dans les moindres détails. Le vendredi 27 juillet 2018, Tiffen débarque à l'aéroport international de Narita, près de Tokyo. Pendant son voyage, elle reste en contact permanent avec ses proches, amis, famille, par le biais de WhatsApp. Elle envoie des nouvelles et des photos à chaque étape de son voyage. Le samedi 28 juillet 2018, Tiffen va en train à Nikko, une petite ville touristique dans les montagnes, à 150 km au nord de Tokyo. À 14h01, Tiffen arrive à la gare de Nikko. Elle est filmée par une caméra de vidéosurveillance de la police et se rend ensuite au Turtle Inn, un petit hôtel 2 étoiles à 2,4 km de la gare. Cet hôtel est situé dans le quartier de Honshō, une zone plus calme à l'ouest de Nikko. À 19h20, ce samedi soir, Tiffen quitte son hôtel pour aller dîner. Elle se rend à pied à une supérette Lawson dans le quartier de Honshō, à 600 mètres au nord du Turtle Inn. C'est à seulement 8 minutes de marche. Sur les images de vidéosurveillance du magasin que vous allez voir, on voit que Tiffen porte un poncho de pluie bleue. Pourquoi ? Parce que dans la soirée du samedi au dimanche, un typhon rétrogradé en tempête tropicale se déchaîne sur la région. Il y a des pluies torrentielles qui se déversent sur Nikko. Donc ce samedi soir, Tiffen mange dans la supérette. Sur les vidéos de surveillance, on voit qu'elle sourit. Rien d'anormal n'est à signaler. Elle reste environ 2 heures au Lawson et rentre ensuite au Turtle Inn, son hôtel, à 21h40, où elle passe tranquillement la fin de la soirée dans sa chambre, une chambre qu'elle occupe au rez-de-chaussée. La nuit passe. Nous sommes maintenant le dimanche 29 juillet 2018. Tiffen prend son petit déjeuner à l'hôtel entre 8h et 9h du matin. Au moins 5 témoins la voient dans la salle commune où sont pris les petits déjeuners. La jeune femme discute avec d'autres clients à table et plus tard, on va se rendre compte que Tiffen a été prise involontairement en photo dans la salle. Encore une fois, tout semble normal. Ce dimanche 29 juillet 2018, la dernière personne à voir Tiffen est l'hôtelier, Monsieur Fukuda. D'après lui, Tiffen quitte le Tortelline en milieu de matinée, vers 10h du matin. À son départ, Tiffen porte la tenue suivante. Elle est habillée d'un short beige, d'un t-shirt blanc, style débardeur, et de baskets en toile blanche avec des petits motifs roses. Elle a emmené avec elle une bouteille d'eau, son pot de chaud de pluie et son sac à main plastifié. Il contient notamment son téléphone, qui est un smartphone Samsung Galaxy S5. Elle a aussi sa carte bleue, ses médicaments contre l'épilepsie. Parce que cette jeune femme souffre d'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui provoque des évanouissements. Il faut dire que depuis un an, Tiffen n'a fait qu'une seule crise, donc sa maladie est sous contrôle. Là, elle porte environ sur elle l'équivalent d'un mois de traitement. On est certain de ces informations parce que toutes ces affaires n'ont pas été retrouvées dans sa valise à l'hôtel. Donc, en milieu de matinée ce dimanche, Tiffen quitte le Tortelline, son hôtel, vers 10h. Malheureusement, on ne la reverra plus jamais. Le lundi 30 juillet 2018, Tiffen ne se présente pas le matin à l'accueil du Tortelline pour son check-out. Elle avait pourtant prévu de quitter l'hôtel ce matin-là. Monsieur Fukuda, le propriétaire, se rend alors compte qu'elle n'est pas dans sa chambre. Il prévient une patrouille de police à 11h23. Et à 11h23, donc, Tiffen Véron est officiellement portée disparue. Monsieur Fukuda tente d'appeler Tiffen sur son téléphone, parce qu'il a son numéro, en présence des policiers. Seulement, il tombe directement sur sa messagerie vocale. Après avoir recueilli le témoignage de Monsieur Fukuda, la police de Nikko commence à chercher la jeune femme dans le quartier de Honshō, qui entoure le Tortelline. Les policiers font la tournée des hôtels, des restaurants du coin, en présentant la photo du passeport de la Française, trouvée dans ses affaires. Ça ne donnera rien. Personne ne se souvient l'avoir vue. Donc, vers midi, Tiffen est toujours introuvable. Vu que les policiers savent qu'elle souffre d'épilepsie, ils envisagent qu'elle a peut-être été hospitalisée. Donc ils vont se renseigner pour savoir si une ambulance n'a pas été appelée dans le but de prendre en charge une touriste étrangère. Mais le résultat sera négatif. Le mardi 31 juillet 2018, les policiers continuent de la chercher. Ils prennent l'initiative de diffuser un avis de recherche national dans tous les commissariats du pays. En France, à Poitiers, la famille de Tiffen commence à s'inquiéter parce que un si long silence radio de la part de Tiffen n'est pas normal. Ils n'ont plus reçu de ces nouvelles depuis le samedi soir. Le mercredi 1er août 2018, l'ambassade de France au Japon réussit à contacter la famille de Tiffen. Donc au départ, la famille n'est pas trop inquiète. Ils se disent qu'elle a peut-être fait un malaise, effectivement, et qu'elle est peut-être dans un hôpital de la région. Et c'est quand même une course contre la montre qui s'engage. Il faut vraiment se dépêcher pour la retrouver. Mais bon, de toute évidence, Tiffen n'est pas dans les hôpitaux. Donc là, la police, elle va chercher Tiffen sur les sites touristiques qu'elle comptait visiter à Nikko. Le problème, et c'est un problème énorme, c'est que Tiffen avait noté beaucoup, beaucoup d'envies de visite sur un programme qu'elle avait écrit elle-même. Vous voyez ce document, qui est un document aussi assez exceptionnel. C'est toute la complexité de cette affaire. Donc vous allez voir sur une carte la configuration des lieux, donc entouré d'un cercle blanc, c'est le Tortelline, l'hôtel de Tiffen. Donc il y a plusieurs sites. Premier site, site numéro 1, le Shinkyo Bridge, le pont rouge de Nikko, qui est un site incontournable à Nikko. Beaucoup de gens viennent uniquement pour prendre des photos de ce pont. Site numéro 2, le Nikko Toshogu, c'est un immense sanctuaire Shinto, où il y a énormément de temples et de musées, et c'est un site qui est aussi énormément visité. Site numéro 3, le Takinu Shrine, un temple beaucoup plus au nord, à 1,5 km du Nikko Toshogu. Il est aussi à 2,5 km du Tortelline, il faut compter environ 30 minutes pour l'atteindre. C'est quand même un endroit qui est accessible à pied. Site numéro 4, Kamanka Fuji Abyss. C'est un élément de statue que voulait voir Tiffen, qui est au bord de la rivière, un peu à l'écart quand même du centre-ville. Donc dès le départ, et ça c'est une constante, ça va continuer du début à la fin de cette affaire, la police de Nikko théorise que Tiffen a certainement fait un malaise à cause de sa maladie. et qu'elle est très vraisemblablement tombée dans la rivière. Donc il privilégie cette piste accidentelle d'une noyade dans la rivière. Mais bon, toutes les recherches ne donneront aucun résultat. Là, à l'heure actuelle, à ce moment-là, Tiffen a disparu sans laisser la moindre trace. Détail très intrigant, Tiffen n'a été filmé a priori par aucune caméra de vidéosurveillance le dimanche 30 juillet, que ce soit dans la ville de Nikko, dans les bus, dans les taxis. Elle est invisible. Ça, c'est un élément aussi important du mystère. Donc, pour la suite, je vais résumer, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant près d'un an et demi. Donc, à partir de début août 2018, la famille Véron, donc surtout Damien et Sybille, ils vont faire de multiples voyages à Nikko. Ils vont s'investir à 300% pour retrouver leur sœur. Ils vont passer dans les médias japonais. Ils vont être très actifs sur les réseaux sociaux. Ils vont participer à des réunions avec la police. Alors, la police, qui fait quand même des efforts. Ils organisent une première grosse battue pour trouver Tiffen, mais c'est le vendredi 10 août 2018, et on est 12 jours après la disparition de la jeune femme. Et les recherches se concentrent autour du Turtle Inn, la rivière près de Kamakafuchi Abyss. La police a tendance à croire qu'elle est tombée là. Pour quelle raison, on ne sait pas. Et ils vont aussi fouiller une partie du mont Nakimuchi. Pourquoi ? Parce qu'un alpiniste japonais aurait cru voir peut-être Tiffen le dimanche de sa disparition, à 14h30. Il aurait vu une Européenne en train de descendre seule la montagne, mais les recherches ne donneront rien. Le témoin a sûrement fait erreur parce que cette Européenne portait une robe et des sandales, donc sa tenue ne correspondait pas du tout à celle de Tiffen. À partir de ce moment-là, la police de Nikko fait comprendre aux Véron qu'ils ne consacreront plus beaucoup autant de moyens pour chercher leur sœur. En fait, en gros, ils vont attendre que quelqu'un trouve quelque chose, un peu par hasard. Pour la famille, c'est juste inacceptable. Revenu en France, la famille Véron rencontre les hommes de la police judiciaire de Poitiers. Les policiers français veulent partir au Japon, ils veulent aider l'enquête. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. Il faut respecter le protocole, et puis il faut attendre le feu vert diplomatique. Comme ils ont le sentiment pénible qu'il n'y a pas vraiment d'enquête au Japon, et c'est pas totalement faux, la famille Véron va mener ses propres enquêtes. Et ils vont vérifier, par exemple, toutes les photos prises à Nikko le jour de la disparition de Tiffen, le dimanche. Dimanche 29 juillet 2018. Et il y a une photo postée sur Instagram qui va attirer particulièrement leur attention. Sur cette photo prise en forêt, on semble distinguer en arrière-plan une forme qui ressemble à Tiffen, camouflée par la verdure. C'en est même bluffant. Je vous fais des zooms de cette photo. C'est vrai qu'on croit voir un poncho bleu, on croit voir un visage humain avec un grand front comme celui de Tiffen. Et là, la télévision japonaise TV Asahi va faire des expertises de cette photo. Et on va se rendre compte qu'en réalité, la silhouette n'était pas la silhouette de Tiffen, c'était une voiture. C'était une illusion optique parfaite, ce qu'on appelle une pareidolie. Et malheureusement, c'était une fausse piste. Donc là, la famille, comme je vous explique, va tout tenter. Hein. Sybille Véron va même interpeller Emmanuel Macron, le président de la République, dans la cour de l'Élysée. Mi-octobre, il va d'ailleurs, grâce à ça, notamment, une deuxième battue d'envergure qui va être lancée par la police de Nikko. Mais ça sera 3 mois après la disparition de Tiffen. De nouvelles fouilles vont être effectuées, mais... Même si les policiers et les pompiers sont de bonne volonté, ce sont pas des hommes de terrain, ils n'ont pas d'expérience en matière de search and rescue. Ils attendent qu'on leur dise où chercher, donc c'est quand même un comble. Et voilà, une fois de plus, ça ne donnera rien. On ne trouve rien, aucun indice, aucun objet appartenant à Tiffen. Et encore moins, malheureusement, de dépouilles. Donc dans les mois qui suivent, la famille Véron va financer elle-même des recherches sur le terrain. Ils vont aussi recruter une équipe canine, des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Mais encore une fois, les chiens ne trouveront rien. Depuis le premier jour, les proches de Tiffen s'acharnent pour trouver pour trouver leur sœur, pour connaître la vérité. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Ils ont, par chance, bénéficié d'un grand élan de solidarité. En France, au Japon, ils ont beaucoup de soutien. Mais bon, malheureusement, ils n'ont toujours aucune réponse à leurs questions. Qu'est-il arrivé à Tiffen ? Pourrait-elle encore être vivante aujourd'hui ? Et si elle avait fait l'objet d'un enlèvement ? On va voir que cette thèse ne doit pas être sous-estimée. Toutes ces questions hantent toujours les proches de Tiffen à l'heure actuelle. Voilà, voilà où on en est à l'heure actuelle. C'est la présentation des faits. On va maintenant passer à la partie commentaires et analyses. Le dossier de la disparition de Tiphaine Véron est extrêmement complexe. Il est indispensable de faire quelques remarques sur son contexte très spécial. Dans le cas de Tiphaine, la recherche de la vérité se heurte à beaucoup d'obstacles, certains insoupçonnés. On va tous les passer en revue. Il y a déjà un nombre d'obstacles liés au Japon en général. Il y a la distance géographique déjà. Le Japon, c'est loin de la France, c'est à l'autre bout du monde, à 10 000 km. Il y a le fossé culturel. Les mentalités, les pratiques nippones sont différentes des nôtres. Par exemple, au Japon, les disparitions sont considérées comme normales. Dans ce pays, environ 100 000 personnes disparaissent volontairement chaque année. On appelle ce phénomène « joatsu », qui signifie « les évaporer ». Personne ne recherche ces personnes disparues, que ce soit la famille, la police. Mais bon, dans le cas Tiphaine, disons-le clairement, elle n'a pas disparu volontairement, et s'est encore moins suicidée. De l'avis de tous, voilà, elle traversait l'une des périodes les plus heureuses de sa vie, et elle avait préparé son voyage dans les moindres détails. Ça n'est pas l'attitude d'une personne qui va mettre fin à ses jours. Et il y a encore d'autres obstacles, il y a la méfiance des Japonais vis-à-vis des étrangers, les gaijin, il y a la procédure pénale qui est différente de la nôtre, il y a des problèmes de communication, la barrière de la langue. Donc toutes ces difficultés sont excusables quelque part, parce que c'est le choc des cultures. Mais les difficultés suivantes le sont beaucoup moins. Il y a des obstacles vraiment spécifiques au dossier de Tiphaine Véron. Déjà, il y a l'inexpérience et l'incompétence de la police locale. On peut se demander si la police de Nikko est vraiment assez expérimentée pour élucider une affaire aussi grave que celle de Tiphaine, une affaire possible de criminel. C'est un simple constat. La police de Nikko et la police de la préfecture de Toshigi, qui la chapote, qui prend les décisions, n'a pas très bonne réputation. C'est l'une des plus mal classées au Japon. Et force est de constater que sa réputation a été entachée par plusieurs fiascos judiciaires, notamment l'affaire Sugaya, un homme qui a passé 17 ans en prison, tout ça parce que la police de Nikko avait mal réalisé des tests ADN. C'était vraiment une grosse erreur judiciaire qui a été traitée dans les médias d'ailleurs, tout ça c'est vérifiable. Donc voilà, il y a déjà ce problème de compétence. Il y a aussi des lacunes, il y a eu des grosses lacunes dans l'enquête concernant Tiphaine. C'est vrai, la police locale a fait plus d'efforts pour Tiphaine, qui était une touriste française, que pour une citoyenne japonaise, par exemple. Ils ont fait des efforts, mais ils n'ont commencé qu'à travailler qu'à l'arrivée de la famille, une semaine après sa disparition. Il y a eu beaucoup de temps perdu. C'est quand même assez regrettable, parce que on sait que dans les affaires de disparition, les premières heures sont cruciales. Il n'y a eu qu'une enquête de voisinage de réaliser dans les jours suivants. Il a fallu attendre des semaines, voire même pratiquement un mois, pour qu'il y ait une enquête de voisinage faite dans tout le quartier de Honshō. Autant dire qu'on a perdu des témoignages potentiellement capitaux, d'autres touristes qui sont repartis dans leur pays. Et ça n'est pas terminé. La chambre d'hôtel de Tiphaine n'a pas été préservée. La police aurait normalement dû la mettre sous scellé pour la préserver. Mais là, la chambre a été nettoyée et relouée quelques jours seulement après sa disparition par le propriétaire de l'hôtel. En clair, il est possible que d'éventuels indices aient été détruits. Et le problème, c'est que aussi les proches de Tiphaine ne savent pas vraiment ce qu'a fait la police de Nikko, et si le travail était bien fait aussi. Parce que, je vous donne un exemple très concret, l'examen des images de vidéosurveillance. Apparemment, et ça n'est pas de leur faute là forcément, les Japonais ont du mal à distinguer les visages européens, à distinguer les différents faciès. Ils sont pas très physionomistes. Ils ont du mal à distinguer une femme blanche d'une autre femme blanche. Ça ne fait que compliquer un peu plus l'équation, parce que il n'est pas impossible, et c'est un problème, que les policiers aient loupé Tiphaine sur les images de vidéosurveillance. Ils ont pu passer à côté. Voilà. On va maintenant parler du téléphone de Tiphaine. C'est aussi un gros problème. J'en ai pas parlé jusqu'à présent. Ce qui est hallucinant, c'est que la police japonaise n'a toujours pas fait de réquisition auprès de l'opérateur SoftBank, l'opérateur japonais qui est propriétaire du réseau de téléphone sur Nikko. La police n'a pas demandé à récupérer les données de géolocalisation concernant le smartphone de Tiffen. Parce que dès qu'elle a mis un pied à Nikko, son smartphone a automatiquement accroché le réseau japonais. C'est ce qu'on appelle le système du roaming. Donc une telle apathie, une telle inertie paraît hallucinante. Parce qu'en France, les policiers, ils obtiennent ces renseignements en quelques heures seulement. Il semblerait que les autorités japonaises soient très frileuses dès qu'il s'agit de la protection des données personnelles. Mais bon, quand même, là, je veux dire, c'est quand même assez incroyable d'apprendre cette chose. Et ce qui, c'est même gravissime parce que toutes ces données auraient peut-être même été effacées. Parce que SoftBank, comme d'autres opérateurs, ils ne conservent pas ces données indéfiniment. Ils les suppriment tous les 6 mois. Et là, on ne sait pas. Peut-être que toutes ces données ont peut-être été effacées, supprimées. Donc autant vous dire que c'est révoltant, parce que ces données permettraient de savoir où était Tiffen dans les dernières heures. Ces infos permettraient de connaître sa dernière localisation connue. On pourrait savoir où son téléphone a borné pour la dernière fois, où il a activé pour la dernière fois une antenne relais. Ça permettrait d'orienter les recherches sur le terrain. Parce que là, autant vous dire qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. C'est une recherche à 360 degrés. Voilà. Donc la police de Nico n'a pas fait la demande. La famille de Tiffen a fait sa propre enquête. Elle a réussi à obtenir des informations auprès de Google. Ils ont réussi à contacter des responsables de Google USA. Ils ont obtenu une information qui est vraiment cruciale. Ils ont obtenu l'information selon laquelle Tiffen se serait connecté pour la dernière fois à Internet le dimanche 29 juillet 2018 à 11h40 avec le Wi-Fi de son hôtel du Turtoline et qu'elle ne s'est plus jamais connectée par la suite à Internet d'une manière que ce soit, par Wi-Fi, 3G. La famille a aussi fait des vérifications auprès de Free. Pourquoi? Parce que Free, c'était l'opérateur téléphonique de Tiffen en France. Et selon Free, le smartphone de Tiffen n'était plus en état de fonctionner le lundi 30 juillet 2018. Il aurait pu être arrêté de manière irrégulière. La raison exacte de cet arrêt reste inconnue. L'appareil aurait pu être cassé, sans batterie, c'est-à-dire qu'il aurait pu être retiré. Là, c'est un peu inquiétant quand même, à moins que Tiffen se trouvait dans une zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'était pas couverte par du réseau. Enfin, la batterie de son téléphone était peut-être aussi tout simplement déchargée. Bref, c'est vraiment le noir le plus complet. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à ce téléphone. On va maintenant revenir au jour de la disparition. À quel moment exact a disparu Tiffen? Bah, là encore, c'est l'inconnu le plus complet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est connectée pour la dernière fois Internet à 11h40 à l'hôtel. Après, plus rien. Elle a donc pu disparaître dès 11h40. Et cet horaire me surprend d'ailleurs, parce que faisait encore Tiffen à son hôtel à 11h40, alors qu'elle avait un planning de visite très chargé pour la journée? Elle était en retard sur son programme en fait, parce que elle voulait visiter des choses dès le samedi, mais elle est arrivée trop tard. Elle a sous-estimé le temps de trajet depuis Tokyo. Donc elle avait beaucoup de choses à voir le dimanche. Qu'est-ce qu'elle faisait encore en fin de matinée à l'hôtel? Autre question sans réponse, où est partie Tiffen le dimanche matin? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'elle voulait voir beaucoup d'endroits. Et elle n'a été vue nulle part au fond. Et c'est d'ailleurs un mystère. Comment se fait-il qu'elle n'a été filmée par aucune caméra de vidéosurveillance le jour de sa disparition? Maintenant, on va voir les deux grandes pistes. Il faut être objectif. Même si la maladie de Tiffen était sous contrôle, elle avait fait qu'une seule crise en un an, elle n'était pas à l'abri de faire une crise. Mais bon, dans ce cas-là, si elle avait perdu connaissance, si elle était tombée par terre, quelqu'un aurait obligatoirement trouvé son corps dans un délai plus ou moins court. Là, depuis un an et demi, on n'a rien trouvé. On va parler de la théorie de la chute dans la rivière. C'est la théorie qu'affectionne la police de Nikko depuis le début. Elle a théorisé que Tiffen serait tombée dans la Daya River, donc la rivière qui traverse la ville de Nikko. Et selon la police, si on n'a pas trouvé son corps, c'est de la faute à la tempête tropicale qui a frappé la région la veille de sa disparition. C'est vrai que cette hypothèse paraît séduisante comme ça de loin, hein. Mais ça tient pas du tout la route quand on analyse les faits en détail. Parce que, d'abord, comment Tiffen serait tombé à l'eau? Aniko, les bords de la rivière, les ponts sont sécurisés par des barrières. Et Damien Véron, le frère de Tiffen, m'a confié que Tiffen était trouillarde, elle avait peur de l'eau. Donc elle se serait méfiée, elle se serait pas approchée. Pour ce qui est de la rivière, c'est vrai que le niveau de l'eau avait triplé durant la nuit. Entre 20h et 4h du matin, il y a eu beaucoup d'eau à tomber, près de 500 millilitres, selon le service météo. Et le niveau de la rivière a triplé. Mais le dimanche matin, selon les habitants questionnés par Damien, le niveau de l'eau était revenu à la normale. En clair, la rivière n'était pas plus dangereuse que d'habitude. Même s'il y avait plus de courant. Voilà. La police a indiqué que Tiffen aurait pu tomber à Kominka Fuchi Abyss, donc à 750 mètres à l'ouest de Turtelines. Mais là encore, c'est très peu vraisemblable parce que, sachant que la Daya River, vous voyez ça sur les cartes, hein, que la Daya River coule de l'ouest vers l'est, si Tiffen est tombée à cet endroit, elle a obligatoirement été emportée vers le centre-ville. Elle est obligatoirement passée sous le pont Shinkyo, le fameux pont rouge dont je vous ai parlé, qui est en aval. Et ce pont est équipé d'une caméra sous le pont qui filme l'eau. Or, cette caméra n'a filmé aucun corps dévalant l'eau de la rivière ce dimanche, ni les jours suivants. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que ce pont, c'est l'attraction numéro 1 à Nico. Il y a énormément de gens qui se concentrent sur ce pont. Et donc, si Tiffen était tombée, elle portait en plus un t-shirt blanc, peut-être même son poncho bleu, elle serait potentiellement passée sous le regard de centaines de témoins. Personne n'a rien vu. Et le plus gros argument qui invalide cette théorie, c'est qu'on n'a pas, on n'a rien trouvé dans la rivière, tout simplement. Depuis un an et demi, on n'a pas trouvé d'objet, on n'a pas trouvé de vêtements, on n'a pas trouvé son sac, on n'a pas trouvé son téléphone, on n'a pas encore moins trouvé sa dépouille. Et ça n'a pas de sens, parce que quand on voit les lieux, il y a des mini-barrages qui sont construits le long de la Daya River, qui cassent le courant, tous les 250 mètres. Et à ces endroits, en fait, Damien m'expliquait que les objets sont colportés de chaque côté de la rivière. Et donc, quand on connaît le nombre de mini-barrages, j'ai compté, il y en a 56 entre l'hôtel et la Kinu River. C'est-à-dire la Kinu River, c'est la rivière dans laquelle se jette la Daya River. Il y en a 56. Donc il ne fait nul doute que je pense que le corps de Tiffen aurait été bloqué par un de ces mini-barrages. Des obstacles artificiels. Et puis voilà, c'est pareil, il y a plein d'arguments contre cette théorie. C'est que les autorités locales ont indiqué que il n'était jamais arrivé qu'on ne retrouve pas de corps. Parce que c'est vrai qu'il arrive quand même qu'il y ait des pêcheurs qui tombent à l'eau là-bas. On trouve toujours les corps. Et là, on n'a rien trouvé. Mais bon, Damien et Sibylle n'ont pas cru à cette théorie. Mais bon, ils ont voulu prouver qu'elle était. Qu'elle était. Très improbable. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont financé eux-mêmes les recherches. Ils ont financé des recherches dans la rivière, la Daya River, avec des professionnels de Mountain Medic Evans. Donc ils ont fouillé la Daya River et une partie de la Kinu River, sans succès, sur environ 35 km. 35 km. Donc ils ont prouvé à 99% que Tiffen n'est pas tombé à l'eau. Voilà. On peut donc considérer que la piste accidentelle est très peu probable. Reste la piste criminelle, deuxième grande piste, qui doit être vraiment étudiée très sérieusement. Est-ce que Tiffen Véron n'aurait pas fait une mauvaise rencontre, à peine arrivée sur le sol japonais? Il y a la piste de Narita déjà. Moi je pense que Tiffen n'a pas rencontré une personne malveillante à Narita, parce que pour une simple raison, c'est qu'elle était seule sur les images de vidéosurveillance de la gare lorsqu'elle est arrivée à Nikko. Je pense qu'elle n'a rencontré personne à Narita ou durant le voyage. Je doute aussi qu'un prédateur l'ait suivi à distance. Parce que dans ce cas-là, on devrait le voir peut-être sur les bandes de vidéosurveillance, peu de temps après sa sortie de la gare. Et ça voudrait aussi dire que le maniaque, enfin le psychopathe, il aurait peut-être attendu le lendemain pour frapper. Donc, Et ça voudrait dire qu'il aurait loué une chambre d'hôtel, il aurait dépensé de l'argent. J'ai quand même du mal à y croire. Bon, pourquoi pas, hein, il y a des psychopathes qui se sont organisés. Mais bon, il aurait quand même réussi aussi à commettre un crime parfait, sans être vu par aucun témoin. Il aurait réussi à cacher son corps, quelque part autour de Nico. C'était quand même compliqué à réaliser, sachant qu'il, surtout s'il n'avait aucun moyen logistique sur place. Moi, je pense que si Tiffany a fait l'objet d'un crime, son agresseur habitait très certainement Nico ou dans ses environs. Voilà. On va parler maintenant de la piste locale, celle que j'affectionne. Donc, selon la police de Nico, la ville de Nico, c'est un paradis pour les touristes. Il ne se passe jamais rien, d'après ce qu'a dit un des inspecteurs. Mais bon, Damien et Sybille, ils ont quand même découvert il y a quelques années, un faux guide agressait sexuellement des jeunes touristes étrangères près du Takinu Shrine. Un temple d'ailleurs que Tiffen avait noté sur ses envies de visite. Le temple qui est le plus au nord, que vous avez vu sur la carte. Donc ce faux guide était assez connu à Nikko et les autorités ont même mis des pancartes d'avertissement sur les lieux. Mais bon, je ne crois pas, ni Damien d'ailleurs, que Tiffen était attaquée par ce faux guide. Parce que elle était obligée, en fait, pour accéder à ce temple, elle était obligée de passer par l'enceinte du sanctuaire Nikko Toshogu. Et là, elle n'a été vue par aucune caméra. Et puis surtout, elle avait beaucoup d'autres sites à voir avant, et on l'a vue nulle part. Quoi qu'il en soit, il faut espérer que la police de Nico ait vérifié l'alibi de ce faux guide, savoir ce qu'il faisait le jour de la disparition de la Française, ainsi que l'alibi de tous les délinquants sexuels de la région. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont probablement fait, mais la famille n'a pas eu d'informations fiables à ce sujet. Voilà. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible que Tiffen ait été enlevée, parce que même si Nikko est une ville assez paisible, le risque zéro n'existe pas. Il suffit que vous trouviez au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc ce dimanche, peut-être que Tiffen a pu être repérée peu après 11h40. Près de son hôtel, au moment où elle sortait de son hôtel, voilà, je sais pas. C'est vrai qu'une touriste étrangère seule à pied, elle était repérable. Elle pouvait être considérée comme une proie facile même, hein. Elle a peut-être été abordée par un gars, un inconnu, qui lui a proposé ses services de guide, ou l'a déposée en voiture, gratuitement. Il aurait pu lui dire, ah ben là j'adore la France par exemple. Je pense que Tiffen aurait accepté, et d'ailleurs ses proches c'est pareil, auraient accepté sans hésiter, parce qu'elle n'était pas méfiante. Et puis c'est vrai que le Japon est considéré comme l'un des pays les plus sûrs au monde. Elle adorait ce pays, elle était dans un état d'euphorie, elle venait juste d'arriver, elle était vraiment folle de joie d'être là. Et il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est que au Japon c'est très mal vu de refuser et respecter les coutumes. Voilà, comme elle était bien éduquée, je pense aussi qu'elle aurait suivi peut-être un étranger, enfin quelqu'un, sans sourciller, elle serait montée à bord de sa voiture. Mais le problème, c'est qu'à l'instant même où elle serait montée à bord de ce véhicule, le piège se serait refermé sur elle. C'est possible, hein. La scène a pu ne pas être filmée par des caméras, parce qu'il y a très peu de caméras autour du Turtle Inn. Le quartier est peu surveillé. Par la suite, bah voilà, il est possible que ce prédateur ait conduit Tiffen dans un lieu secret. Tiffen a pu être neutralisé facilement. On a pu lui offrir un thé, par exemple, un thé contenant un somnifère. Voilà. Par la suite, son agresseur s'est empressé de détruire son téléphone, le mettre hors service. C'est pour cette raison que Free a indiqué que son téléphone avait été arrêté de manière irrégulière, par exemple. C'est possible. Et en tout cas, ce qui se pourrait bien que quand même que Tiffen soit toujours vivante à l'heure actuelle, peut-être séquestrée dans la cave d'une maison, dans la région de Nikko, et peut-être même à Nikko, selon un spécialiste japonais, Tai Ogawa, qui est consultant à la télévision japonaise, c'est un ancien inspecteur criminel japonais, pour lui, il est possible que Tiffen n'ait pas été tuée. C'est horrible à dire, mais bon, elle pourrait avoir même été conservée, peut-être comme trophée, je sais pas moi. C'est vrai qu'une belle française, comme ça, peut-être qu'elle a pu être gardée vivante. En ce qui concerne son état de santé, le neurologue de Tiffen a indiqué qu'elle pouvait survivre sans ses médicaments. Elle avait un mois de traitement sur elle, mais bon, elle pouvait survivre sans ses médicaments. Dans quel état, par contre, ça. En ce qui concerne le profil de l'agresseur, moi j'ai tendance à penser que ça pourrait être un peu un loup solitaire, voilà, qui enlève une Européenne pour son seul plaisir. Mais on ne peut pas éliminer complètement l'hypothèse que Tiffen ait peut-être été enlevée par un réseau de prostitution forcée, malheureusement. Elle aurait peut-être été kidnappée pour devenir une travailleuse du sexe. On sait que ce phénomène existe à l'échelle mondiale, notamment en Asie. Voilà. Dernière piste, et cette piste aussi n'est pas à négliger. Je l'ai soulevé longuement dans l'émission sur Nuret TV. Vu que Tiffen s'est volatilisée très très vite, sans témoin, qu'elle n'a été filmée par aucune caméra de vidéosurveillance le dimanche de sa disparition, il faut se poser la question, et si elle n'était jamais sortie du Turtle Inn ? Monsieur Fukuda, le propriétaire, a déclaré que Tiffen serait partie de l'hôtel à 10h. Apparemment, tous les autres clients avaient déjà quitté l'établissement depuis le début de matinée. Cet hôtel comporte 10 chambres et d'après l'enquête de police japonaise, il y avait 8 autres clients qui séjournaient au Turtle Inn le week-end de la disparition de Tiffen. Et ces autres clients avaient tous des voitures, contrairement à Tiffen. Moi, je pense que ces derniers n'ont joué a priori aucun rôle dans la disparition de Tiffen, mais bon, ça serait quand même intéressant de vérifier. On sait juste que la police japonaise, apparemment, en a questionné certains par téléphone, mais bon, ça serait intéressant de savoir, par exemple, si certains de ses clients n'avaient pas des antécédents judiciaires. Est-ce que l'un d'entre eux n'aurait pas été condamné, je sais pas moi, pour une agression sexuelle, par exemple? J'en sais rien. Alors attention, ne portons pas d'accusations gratuites infondées contre les anciens clients et puis le propriétaire de l'hôtel. Hein. Mais bon, il serait quand même légitime de procéder à des vérifications concernant ce dernier pour les motifs suivants. Je les ai notés. Cet homme est la dernière personne à avoir vu Tiffen vivante le dimanche 29 juillet. Il a donné un horaire différent du départ de Tiffen, 10h, alors que... sa dernière connexion internet indiquait qu'elle était encore dans l'hôtel à 11h40. Donc il y a une incohérence là. Le propriétaire de l'hôtel a nettoyé et reloué la chambre de Tiffen relativement vite après la disparition de Tiffen. Quelques jours. Après, c'est aussi peut-être la faute à la police. Ils avaient aussi qu'à donner des instructions, hein. Mettre la chambre sous scellé. C'est le propriétaire de l'hôtel qui a prévenu la police le lundi à 11h23. Ce qui est étonnant, moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est que personne n'ait remarqué l'absence de Tiffen dès le dimanche soir. Alors, je sais pas, elle a peut-être sa clé, mais bon, les gérants d'hôtel n'espionnent pas leurs clients, mais bon, ils auraient peut-être pu remarquer quand même que Tiffen n'était pas là. Et puis bon, il y a aussi l'élément, un élément qui est intéressant, enfin, que j'ai noté aussi, c'est que la police de Nikko a fouillé le jardin du Turtle Inn le lundi 13 août 2018. Qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement ? Ça, personne n'est en mesure de répondre. Donc, moi, encore une fois, je tiens très clair, je n'ai rien contre M. Fukuda. Hein, il est sans doute innocent. Mais je ne vous cache pas que ces éléments sont quand même trop perturbants, quoi. Je veux dire, il faut toutefois lever le doute et l'écarter définitivement de la liste des suspects. Donc, si la police japonaise a fait son travail, ils ont vérifié cette piste. Et d'après mes informations, cet homme a été auditionné plusieurs fois, mais il n'a pas été inquiété. Donc à sa décharge, il faut quand même prendre sa défense, hein. Attention, moi j'essaie d'être juste, honnête, objectif. Il y a une explication rationnelle qui existe pour expliquer cette incohérence d'horaire. Peut-être que Tiffen a fait un faux départ à 10h. Peut-être que M. Fukuda l'a vu partir à 10h, et peut-être qu'elle est revenue, sans qu'il ne la voie, se reposer dans sa chambre, avant de repartir. Peut-être qu'elle était fatiguée à cause du décalage horaire. Elle a sûrement mal dormi, parce que les touristes français qui arrivent au Japon, en général, les premiers jours, ils dorment très mal. Donc peut-être que Tiffen est retournée se reposer un peu dans sa chambre, elle a resurfé un peu sur Internet, jusqu'à 11h40, et là, cette fois, elle est partie pour de bon. Voilà. Donc, pour être tout à fait complet, encore une fois, n'omettons pas de dire que Tiffen a peut-être pu perdre la vie aussi à l'intérieur du Turtle Inn, vu que c'est le dernier endroit où elle a été localisée, et qu'on ne l'a revue nulle part ensuite. Donc encore une fois, M. Fukuda, les autres clients étaient probablement, ils sont présumés innocents. Hein. Mais d'un point de vue théorique, il y a quand même plusieurs scénarios plausibles. Peut-être que Tiffen a fait un malaise ou un accident mortel dans l'hôtel, le dimanche, en fin de matinée. Craignant pour la réputation de l'établissement et pour son honneur, parce que c'est une valeur importante au Japon, le propriétaire panique, il fait disparaître sa dépouille, avec l'aide ou non de son entourage, il détruit ensuite le téléphone, etc. Autre possibilité, quelqu'un agresse Tiffen dans sa chambre le dimanche en fin de matinée. Parce que souvenez-vous qu'elle était seule. Elle était seule à avoir une chambre au rez-de-chaussée. Tous les autres clients étaient partis, a priori. Donc là, encore une fois, c'est vrai qu'elle était isolée, quoi. Elle aurait pu être victime peut-être d'une agression qui aurait dégénéré. Et là encore, c'est malheureux, mais la personne la mieux placée peut-être pour s'en prendre, pour jouer le rôle de l'agresseur, c'est peut-être M. Fukuda encore. Parce que il a sûrement un double de la clé. Imaginons, par exemple, c'est vraiment de la spéculation pure, imaginons que M. Fukuda est flashé sur Tiffen, une jolie française, et puis il la voit partir à 10h ce matin-là, et il décide d'aller voir dans sa chambre, fouiller dans ses affaires. Hein. Je sais pas, regarder dans sa valise, sa lingerie, j'en sais rien. Et seulement Tiffen, à ce moment-là, revient par inadvertance. Elle revient dans sa chambre, elle le surprend. Et là, ça se passe mal. L'idée de ce scénario, ça m'est venu à cause d'un détail qui m'a été donné par Damien. Il m'a dit qu'en fait, que lorsqu'ils étaient au Japon, la police japonaise a montré à la famille, notamment à la maman de Tiffen et Damien, des photos de la chambre d'hôtel de Tiffen. Et sur ces photos, on voyait que la valise de Tiffen était ouverte sur son lit et que les affaires étaient étalées sur le lit. Et selon sa mère, selon Anne, Tiffen n'aurait pas laissé toutes ses affaires en évidence sur son lit parce que c'était quelqu'un de discret, si jamais quelqu'un était venu faire le ménage dans sa chambre. Donc voilà, ça l'a un peu titillé ce détail. Bon, s'il y a eu lutte, s'il y a eu un crime commis dans cette chambre d'hôtel, c'est difficile peut-être de le savoir, mais peut-être pas non plus, parce qu'on sait qu'on peut trouver, on peut repérer encore des traces de sang effacées, après coup, grâce à des produits comme le Blue Star. La police scientifique sait faire ça assez facilement. Ce qui est regrettable, c'est qu'aucun chien policier n'était amené dans cette chambre voilà, le lendemain du drame, parce que justement, s'il y a eu crime, si peut-être que malheureusement, si Tiffen a été agressé, tué, si son cadavre a été stocké dans une autre pièce de l'hôtel, peut-être qu'un chien aurait senti quelque chose. Et voilà. Donc c'est dommage, parce que tous ces points mériteraient d'être éclaircis. Cette enquête a été tellement lamentable depuis le début qu'on ne sait pas. Si tout ça a été vérifié. Voilà. En tout cas, ces vérifications permettraient de blanchir définitivement l'hôtelier et les dernières personnes ayant côtoyé Tiffen à l'hôtel. Voilà. C'est la fin de cette émission résumée de l'affaire. C'était un petit peu long quand même, parce que je peux pas faire ça en 2 minutes. Voilà, c'est une affaire qui mérite aussi qu'on l'étudie sérieusement. Donc, Damien, Sibylle et le reste de la famille Léron continuent de se battre encore à l'heure actuelle. Ils vont continuer dans les prochains mois. Je leur souhaite de continuer à se battre le moins possible. Ça voudrait dire qu'ils obtiendront la vérité. Mais bon... Là, ils vont repartir encore en expédition au Japon pour continuer leurs recherches, collaborer avec la police. Ils demandent à ce que la police française puisse aller travailler à Nikko pour aider la police locale dans leur enquête, en revérifiant par exemple les images de vidéosurveillance. Parce que depuis 1 an et demi, c'est Damien et Sibylle qui ont mené l'essentiel des investigations. Donc si vous voulez les soutenir, vous pouvez le faire, notamment en aidant leur association, Unie pour Tiffen Véron. Vous allez trouver ce lien dans la description de cette vidéo, avec les autres liens. Si vous voulez en savoir plus sur le reste de l'affaire, avoir plus de détails encore, je vous conseille d'aller voir la grosse émission que j'ai faite sur Nura TV, qui est suivie d'une interview exclusive en direct avec la famille, avec Sibylle et puis Damien. Pour finir, je laisse la parole à Sibylle et à Damien. Je tiens avant tout, encore une fois, à saluer leur courage et à leur témoigner toute mon amitié.
Bon, merci beaucoup à tous d'avoir suivi l'émission de Guillaume et Lionel. Même si ça fait plus d'un an que Tiffen a disparu, vous êtes toujours présents pour suivre... vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qui lui est arrivé. Donc ça nous touche beaucoup et ça nous donne aussi beaucoup de courage. Parce que c'est dur de pousser cette enquête. Enfin, vraiment, c'est dur.
Surtout, alors ce qui est important, c'est qu'on va vraiment avoir besoin de vous, puisque Nikko est assez touristique. Et puis peut-être que l'un de vous a déjà été à Nikko. Donc si vous avez des photos ou si vous avez été à Nikko le 28 juillet et 29 juillet 2018, pensez à regarder dans vos archives. Peut-être que Tiffen peut figurer sur l'une des photos que vous avez pu prendre lorsque vous y avez été.
Parce que clairement, vous l'avez compris, là, l'enquête, elle est plutôt au point zéro. C'est-à-dire que son emploi du temps s'arrête le 29 en milieu de matinée. Donc, elle peut avoir été dans la ville de Nico, avoir été en voiture. Donc, c'est très important de scruter le moindre détail. On l'a fait un peu, nous, avec nos proches, à aller fouiller sur les réseaux sociaux, mais ça suffit pas, en fait. Il faut que... Voilà.
Et puis, comme Lionel vous a expliqué, hein, pour l'instant, les seules investigations qui sont menées par nous. Donc, effectivement, nous, on a créé une association et un site internet. Donc, si vous voulez nous aider financièrement, bah, écoutez, vous avez cette possibilité-là en allant sur notre site internet, soit en adhérant à notre association ou alors en nous faisant un don. Voilà, on vous remercie parce que c'est grâce, depuis le début, à l'aide de tous qu'on peut mener des actions au Japon. Mmh.
Voilà. Et puis même tous vos messages, le fait de relayer l'information tout le temps, ça nous aide énormément. Et nous, on n'abandonne pas. On pense toujours pouvoir retrouver Tiffen. Donc il n'y a pas de raison. Dans la majorité des cas, on retrouve les gens. Donc pourquoi pas Tiffen, voilà. Même si le temps passe.